Platon crat-il ou de la propriété des noms ? Interlocuteur : Hermogène crat-il et Socrate. Hermogène : Voilà Socrate, veux-tu que nous lui fassions part du sujet de notre entretien ? Crat-il : Oh, comme il te plaira. Hermogène : Crat-il que voici prétend, mon cher Socrate, qu'il y a pour chaque chose un nom qui lui est propre et qui lui appartient par nature. Selon lui, ce n'est pas un nom que la désignation d'un objet par tel ou tel son, d'après une convention arbitraire. Il veut qu'il y ait dans les noms une certaine propriété naturelle qui se retrouve la même et chez les Grecs et chez les barbares. Je lui demande alors si le nom de Cratyl est ou n'est pas son nom véritable. Et il avoue que tel est son nom. Et le nom de Socrate, lui demandai-je encore. C'est bien Socrate, me répondit-il. Et de même pour tous les autres hommes, leur nom n'est-il pas celui par lequel nous désignons chacun d'eux ? Non pas, me dit-il, ton nom n'est pas Hermogène, quand même tout le genre humain t'appellerait ainsi. Là-dessus, je l'interroge, curieux de comprendre enfin quelque chose à son opinion. Mais il ne s'explique pas et se raille de moi, se donnant l'air d'avoir par devers lui, sur cette matière, des idées qui me forceraient bien, s'il voulait m'en faire part, à me ranger à son avis et le dire tout comme lui. Si par hasard, Socrate, il t'était possible de débrouiller les oracles de Cratyl, j'aurais du plaisir à t'entendre. Mais j'en éprouverais plus encore à savoir de toi, si tu y consens, quelle est la façon de penser sur la propriété des noms. Socrate. Ô Hermogène, fils d'Hippodicus, c'est un vieux proverbe que les belles choses sont difficiles à apprendre. Vraiment, ce n'est pas une petite affaire que l'étude des noms. À la bonne heure, si j'avais entendu chez Prodicos sa démonstration à 50 drachmes par tête qui nous l'a fait connaître, à ce qu'il dit, tout ce que l'on doit savoir à cet égard. Il viendrait à rien que tu m'apprisses à l'instant même la vérité sur la propriété des noms. Mais, quoi, je n'ai entendu que sa démonstration à une drachme. Je ne puis donc savoir ce qu'il y a de vrai sur ce sujet, néanmoins. Me voilà tout prêt à chercher en commun avec toi et avec Cratyl. Quant à ce qu'il dit, qu'Hermogène n'est pas véritablement ton nom, je suis tenté de croire qu'il veut plaisanter. Il entend peut-être par là que, poursuivant la richesse, elle t'échappe toujours. Quoi qu'il en soit, la question, comme je l'ai dit, est difficile. Examinons-la et voyons si c'est toi qui as raison ou bien si c'est Cratyl. Hermogène. Pour moi, Socrate, après en avoir souvent raisonné avec Cratyl et avec beaucoup d'autres, je ne saurais me persuader que la propriété du nom réside ailleurs que dans la convention et le consentement des hommes. Je pense que le vrai nom d'un objet est celui qu'on lui impose, et que si à ce nom on en substitue un autre, ce dernier n'est pas moins propre que l'était le précédent. De même que si nous venons à changer les noms de nos esclaves, les nouveaux qu'il nous plaît de leur donner ne valent pas moins que les anciens. Je pense qu'il n'y a pas de nom qui soit naturellement propre à une chose plutôt qu'à une autre, et que c'est la loi et l'usage qui les ont tous établis et consacrés. S'il en est autrement, oh, je suis tout disposé à m'en instruire et à écouter Cratyl ou qui que ce soit. Tu peux avoir raison, Hermogène. Eh bien, examinons. Alors, tu dis que le nom d'une chose est celui que chacun juge à propos de lui assigner. C'est mon avis. N'importe qui le fasse, soit un État, soit un particulier. Oui. Quoi, s'il me plaît de nommer un objet quelconque, par exemple, d'appeler cheval, ce que d'ordinaire nous appelons homme, et réciproquement, il s'ensuivra que le nom du même objet sera homme pour tout le monde et pour moi cheval, ou bien cheval pour tout le monde et homme pour moi, n'est-ce pas ce que tu dis ? C'est bien cela ? Eh bien, réponds. Admets-tu qu'on puisse dire vrai et qu'on puisse dire faux ? Assurément. Ainsi, il y aura un discours vrai et un discours faux. Oui, certes. Le discours vrai sera celui qui dit les choses comme elles sont et le faux comme elles ne sont pas. Oui. Il est donc possible de dire par le discours ce qui est et ce qui n'est pas. Oh, sans contredit. Et se peut-il qu'un discours soit vrai dans son entier et ne soit pas dans ses parties? Non, ces parties sont vraies aussi. Toutes ces parties ou bien les plus grandes seulement et non les plus petites? Toutes, à mon avis. Et trouves-tu qu'il y ait dans le discours une partie plus petite que le non? Ben non, nullement, c'est la plus petite. Ainsi, le non peut faire partie d'un discours vrai. Oui. Et cette partie sera vraie de ton aveu. Oui. Et la partie d'un discours faux n'est-elle point fausse? J'en conviens. Un non peut donc être vrai ou faux, dès que le discours peut l'être l'un ou l'autre. D'accord? Mais le nom de chaque chose est celui que chacun dit. Oui. Quelque chose aura-t-elle donc autant de noms que chacun leur en donnera, et seulement dans le temps qu'on les lui donnera? En effet, Socrate, il n'y a pas pour moi d'autre propriété dans les noms, sinon que je puisse appeler une chose de tel nom que je lui donne à mon gré et que tu appelleras, si tu veux, de tel autre que tu lui donneras de ton côté. Ainsi, je rencontre dans des villes différentes différents noms pour désigner un seul et même objet, et cela chez les Grecs entre eux et entre les Grecs et les barbares. Voyons, Hermogène. Penses-tu aussi que les êtres n'aient qu'une existence relative à l'individu qui les considère, suivant la proposition de Protagoras, que l'homme est la mesure de toute chose, de sorte que les objets ne soient pour toi et pour moi que ce qu'ils nous paraissent à chacun de nous individuellement, ou bien te semble-t-il qu'ils aient en eux-mêmes une certaine réalité fixe et permanente? Je l'avoue, Socrate, j'en suis venu autrefois, dans mes incertitudes, aux opinions de Protagoras. Néanmoins, je ne puis croire qu'il en soit tout à fait ainsi. Quoi donc, en es-tu venu quelquefois à croire que nul homme n'est tout à fait méchant? Non, par Jupiter. Souvent, au contraire, j'ai été dans le cas de trouver des hommes tout à fait méchants. J'en ai trouvé un bon nombre. Et n'en as-tu pas vu qui te semblait tout à fait bon? Oh, pour cela, bien peu. Mais tu en as vu. J'en conviens. Et comment l'entends-tu? N'est-ce pas que ces derniers étaient tout à fait raisonnables et que les hommes tout à fait méchants étaient tout à fait insensés? C'est beau sentiment. Mais si Pythagoras a raison, s'il est vrai que les choses ne sont que ce qu'elles paraissent à chacun de nous, est-il possible que les uns soient raisonnables et les autres insensés? Non, vraiment. Tu es donc, à ce qu'il me semble, tout à fait persuadé que, puisqu'il y a une sagesse et une folie, il est tout à fait impossible que Protagoras ait raison. En effet, un homme ne pourra jamais être plus sage qu'un autre si la vérité n'est pour chacun que ce qui lui semble. Évidemment. Eh bien, je ne pense pas non plus que tu soutiennes avec Euthydème que tout est de même à la fois et toujours pour tout le monde. Car il serait impossible que les uns fussent bons et les autres méchants si la vertu et le vice étaient de la même manière et en tout temps dans tous les hommes. Fort bien. Par conséquent, si tout n'est pas de même à la fois et toujours pour tout le monde, et si chaque être n'est pas non plus différent pour chaque individu, il est clair que les choses en sont elles-mêmes une réalité constante, qu'elles ne sont ni relatives à nous, ni dépendantes de nous, et qu'elles ne varient pas au gré de notre manière de voir, mais qu'elles subsistent en elles-mêmes, selon leur essence et leur constitution naturelle. Je le crois, Socrate. Maintenant, serait-il ainsi des choses sans qu'il fût de même de leurs actions? Et les actions ne sont-elles pas une espèce d'être? Il est vrai, les actions se font donc aussi conformément à leur nature propre. Qu'il s'agisse, par exemple, de couper quelque chose, serons-nous maîtres de le faire de la manière qui nous plaira ou avec ce qui nous plaira? N'est-il pas vrai, au contraire, que nous ne pourrons couper et que nous y réussirons, que nous ne tenons bien la chose, qu'en coupant comme la nature des choses veut qu'on coupe et qu'on soit coupé? Tandis que, si nous allons contre la nature, nous ferons mal et ne réussirons pas. Tu as raison. Et si nous voulons brûler quelque chose, ce n'est pas en nous réglant sur la première opinion venue que nous y parviendrons, mais en suivant la véritable et la véritable. C'est celle qui indique de quelle manière et avec quoi on peut brûler ou être brûlé. Oui. Et de même pour toutes les autres actions. Sans contredit. Mais parler, n'est-ce pas aussi une action? Oui. En ce cas, si l'on parle en ne consultant que sa propre opinion sur la manière de parler, parlera-t-on bien? N'est-il pas vrai que l'on ne peut parler véritablement qu'autant que l'on dit des choses comme la nature veut qu'on les dise et qu'elles soient dites, et avec ce qui convient pour cela, tandis qu'autrement on se trompera, on ne fera rien de bon? Je le crois ainsi. Nommer, n'est-ce pas une partie de l'action de parler? C'est en nommant qu'on l'on parle. Oui, certainement. Nommer est donc une action, puisque nous sommes convenus que parler est une action qui se rapporte aux choses. Oui. Et nous avons dit que les actions ne dépendent pas de nous, mais qu'elles ont elles-mêmes en elles-mêmes leur nature propre. Oui. Il s'ensuit donc, si nous voulons être d'accord avec nous-mêmes, qu'il faut nommer, non pas selon notre caprice, mais comme la nature des choses veut qu'on nomme et qu'on soit nommé, et avec ce qui convient à cet usage, qu'ainsi seulement nous ferons quelque chose de sérieux et nommerons effectivement, qu'autrement il n'y aura rien de fait. Soit, en ce cas, si l'on veut couper, c'est à condition d'employer ce qu'il faut pour couper. Oui. Et si l'on veut démêler le tissu, on doit se servir de ce qu'il faut pour cela. De même pour percer. Oui. Et si l'on veut nommer, il faudra également le faire au moyen de quelque chose. Sans doute. Et comment appelles-tu ce qui sert à percer? Un perçoir? À démêler le tissu, un battant, à nommer enfin un nom. Très bien, le nom est donc aussi un instrument. Sans doute. Et si je te demande quel instrument c'est que le battant, n'est-ce pas celui avec lequel on démêle? Oui. Et qu'en fait-on? Ne l'emploie-t-on pas à débrouiller la trame et la chaîne confondues ensemble? Oui. Et ne pourrais-tu pas me répondre pareillement au sujet du perçoir et des autres instruments? Assurément. Et peux-tu m'en dire autant au sujet du nom? Si c'est un instrument, qu'en faisons-nous quand nous nommons? C'est ce que je ne puis dire. Mais n'est-ce pas que nous nous apprenons quelque chose les uns aux autres et que nous démêlons les manières d'être des divers objets? Oui, à la bonne heure. Le nom est donc un instrument d'enseignement et qui sert à démêler les choses comme le battant à démêler des fils. Oui. Et le battant est un instrument du tissage. Sans doute. Un tisserand habile se servira donc bien du battant, c'est-à-dire qui s'en servira en tissant. Un maître habile se servira bien du nom, bien, c'est-à-dire en maître. Oui. Et lorsque le tisserand emploie ce battant, de qui emploie-t-il l'ouvrage? Du menuisier. Tout homme est-il menuisier ou celui-là seulement qui possède l'art de la menuiserie? Bon, celui qui possède cet art. Celui qui perce le bois, à quel artisan doit-il le percevoir dont il sait se servir? Au taillandier? Tout le monde peut-il être taillandier ou bien seulement celui qui possède cet art? Celui-ci seulement? À merveille! Et le maître habile, quand il fait usage du nom, et de qui emploie-t-il l'ouvrage? Ah, pour cela, je ne puis pas le dire non plus. Tu ne peux pas dire qui nous fournit les mots que nous employons? Non, vraiment. Ne penses-tu pas que c'est la loi qui nous les donne? Oui, à apparence. Et quand donc le maître emploie les noms? C'est de l'œuvre du législateur qu'il fait usage. Je le crois. Et penses-tu que tout homme soit législateur ou bien celui-là seulement qui possède l'art de la législation? Oh, ce dernier seulement. Ainsi, Hermogène, il n'appartient pas à tout homme d'imposer des noms aux choses, mais à un véritable artisan de noms. Et ce faiseur de noms, c'est à ce qu'il paraît le législateur de tous les artisans le plus rare parmi les hommes. À ce qu'il paraît. Maintenant, considère sur quoi se règle le législateur en établissant les noms. Reporte-toi à ce que nous disions tout à l'heure. Sur quoi se règle le menuisier qui fait le battant? N'est-ce pas sur la nature même de l'opération du tissage? Assurément. Et si au lieu de son travail, ce battant vient à se briser, est-ce à l'imitation de celui qui en fabriquera un autre, ou se reportera-t-il pas plutôt à l'idée même qui lui avait servi de modèle pour faire le premier? C'est, je pense, à ce modèle qu'il reviendra. Et cette idée, ne serait-il pas juste de l'appeler le battant par excellence? Ah, la bonne heure! Et dès que le battant est destiné à faire des étoffes, soit fine, soit grossière, de fil ou de laine, ou autrement, ne doit-il pas toujours présenter la forme générale d'un battant? Et d'autre part, l'ouvrier qui le fabrique ne doit-il pas donner à son ouvrage la disposition qui est le mieux appropriée à chaque espèce de tissu? Oui. Et de même pour les autres instruments. Après avoir trouvé l'instrument qui est naturellement propre à chaque genre de travaux, il faut l'exécuter avec les matériaux que la nature a destinés à cet usage, et non pas au hasard et de fantaisie, mais comme il convient. Par exemple, il faut savoir exécuter avec du fer le percevoir propre à chaque opération. Sans doute, et avec du bois, le battant propre à chaque sorte de tissu. D'accord? Car nous avons dit qu'il y a pour chaque genre de tissage un battant qui y est naturellement propre, et ainsi des autres instruments. Oui. Le législateur doit donc aussi, mon cher ami, former avec les sons et les syllabes les noms qui conviennent aux choses. Il faut qu'il les fasse et qu'il les institue en tenant ses regards attachés sur l'idée du nom, s'il veut être un bon instituteur de noms. Il est vrai que tous les législateurs ne renferment pas le même nom dans les mêmes syllabes. Mais nous n'ignorons pas que tous les forgerons ne se servent pas du même fer, quoiqu'ils travaillent au même instrument et dans le même dessin. Toutefois, cet instrument, tant qu'il représentera le même modèle, ne laissera pas d'être bon malgré la différence du fer, soit d'ailleurs que l'ouvrier l'ait fait chez nous ou chez les barbares. N'est-il pas vrai? Certainement. Tu jugeras donc de même du législateur. Qu'il soit grec ou barbare, pourvu qu'il approprie convenablement à chaque chose l'idée du nom, de quelque syllabe qu'il se serve, il en vaudra ni plus ni moins pour appartenir à notre pays ou à tout autre. Assurément. Et qui est celui qui décidera si l'on a donné à un bois quelconque la forme propre d'un battant? Sera-ce celui qui l'a fait, le menuisier, ou celui qui doit s'en servir, le tisserand? Oh, mais naturellement, Socrate, ce sera celui qui doit s'en servir. Et comment appelles-tu celui qui doit se servir de l'ouvrage du fabricant de lyre? N'est-ce pas celui qui sera le mieux présenté au travail de cet ouvrier et juger ensuite si l'ouvrage est bon ou mauvais? Sans doute. Et quel est-il? Le joueur de lyre. Et qu'est-ce qui jugera de l'ouvrage du constructeur de navire? Le pilote? Et qui enfin devra diriger et juger ensuite l'ouvrage du législateur, soit chez nous, soit chez les barbares? N'est-ce pas celui qui devra s'en servir? Oui. Et celui-là ne sera-t-il pas l'homme qui possède l'art d'interroger? Oui. Et de répondre à son tour? Oui. Et celui qui sait interroger et répondre, n'appelles-tu pas dialecticien? Sans contredit. Or, le charpentier, pour bien faire un gouvernail, a besoin de le faire sous la détection de pilotes. Évidemment. De même aussi le nom, qui est l'ouvrage du législateur, devra, pour être bon, être fait sous la direction d'un dialecticien. Cela est vrai. Il paraît, Hermogène, que l'institution des noms n'est pas une petite affaire, ni l'ouvrage de gens médiocres et du premier venu. Gratil a-t-il donc raison, a donc raison de dire qu'il y a des noms naturels aux choses, et que tout homme ne peut pas être un artisan de noms, mais celui-là seul qui considère le nom propre à chaque chose et qui sait en réaliser l'idée dans les lettres et les syllabes. Je ne vois pas, Socrate, ce que je pourrais opposer à ce que tu dis. Mais pourtant, il n'est pas facile de s'y rendre sur l'heure. Ce qui pourrait, je crois, me persuader le mieux, ce serait de me faire voir en quoi consiste cette propriété du nom que tu prétends être fondée dans la nature. Mais moi, mon cher Hermogène, je ne prétends rien. Tu oublies ce que je disais tout à l'heure, que j'ignore tout cela, mais que je l'étudierai volontiers avec toi. Ce que nous avons du moins reconnu jusqu'ici, contrairement à ce qui nous semblait d'abord, c'est que le nom a en lui-même une certaine propriété naturelle et que tout homme n'est pas capable de donner à quelque chose que ce soit le nom qui lui convient. N'est-il pas vrai? Oh, très vrai. Ce qu'il nous faut donc chercher maintenant, puisque tu désires le savoir. C'est en quoi consiste la propriété naturelle des noms. Assurément, je désire le savoir. Eh bien, cherche-le. Mais comment faire? Le meilleur moyen, mon cher ami, et le plus propre à notre objet, ce serait de s'adresser aux gens qui s'y entendent, en leur payant de bonnes sommes avec bien des remerciements par-dessus le marché. Je veux parler des sophistes à qui ton frère Callias a compté tant d'argent. Aussi passe-t-il pour sage. Mais comme tu ne possèdes rien du patrimoine de ta famille, je te conseille de cajoler ton frère et de faire en sorte par tes instances qu'il t'enseigne cette propriété des noms dont il a dû être instruit par Protagoras. La démarche serait étrange de ma part, Socrate, si moi qui n'admets point du tout la vérité de Protagoras, je faisais le moindre cas des conséquences qu'on peut en avoir tirées. Mais si ce moyen ne te convient pas, il faut nous instruire auprès d'Homère et des autres poètes. Et que dit Homère de la propriété des noms? Où en parle-t-il? Bon, maint endroit, mais les principaux et les plus beaux sont ceux où il distingue pour une même chose le nom dont se servent les hommes et dont celui dont se servent les dieux. Est-ce que tu ne trouves pas qu'Homère nous dit là avec quelque chose de grand et de merveilleux sur la propriété des noms? Car il est clair que les dieux doivent employer avec une propriété parfaite les dénominations naturelles des choses. N'es-tu pas de cet avis? Oui, sans doute, je conçois que si les dieux donnent des noms, ils doivent les donner justes. Mais quels sont ceux que tu veux dire? Mais ne sais-tu pas qu'en parlant de ce fleuve de Troie, qui a un combat singulier avec Vulcain, Homère dit: ce fleuve que les dieux appelaient le Xanthe et les hommes Scamandre. Oui. Eh bien, ne trouves-tu pas que c'est une chose importante de savoir en quoi il y a plus de justesse et de propriété à appeler le fleuve Xanthe qu'à l'appeler Scamandre. Ou prends-tu encore, si tu veux, ce qu'il dit de cet oiseau, que les dieux appellent Calcis et les hommes Simnindis? N'est-ce rien de savoir en quoi le nom de Calcis convient mieux à cet oiseau que celui de Simindis? Ou bien encore la colline Batéia, autrement dite par les dieux Myrinée, et tant d'autres exemples dans ce poète et dans d'autres. Mais ce sont là peut-être des difficultés trop grandes pour que toi et moi nous puissions les résoudre. Le double nom de Scamandrios et d'Astyanax sera, je pense, un sujet plus à la portée de simples mortels, et nous trouverons plus aisément ce qu'Homère a pensé de la propriété de ces deux noms qu'il attribue au fils d'Hector. Tu connais sans doute les vers où se trouve ce dont je veux parler. Oui, parfaitement. Et lequel de ces deux noms, Astyanax ou Scamandrios, Homère te semble-t-il avoir considéré comme le plus propre à l'enfant? Je ne puis le dire. Voyons donc. Si on te demandait, sont-ce les plus sages ou les moins sages qui donnent les noms les plus justes? Bien évidemment, ce sont les plus sages, répondrai-je. Dans une ville, à parler en général, sont-ce les hommes ou les femmes qui te paraissent les plus sages? Ce sont les hommes. Or, tu sais ce que dit Homère, que les Troyens appelaient Astyanax le jeune fils d'Hector. Il est donc clair que c'était les femmes qui l'appelaient Scamandrios, puisque les hommes lui donnaient le nom d'Astyanax. Il y a apparence. Sans doute Homère jugeait les Troyens plus sages que leurs femmes. Je le crois. Il devait donc juger qu'Astyanax était pour l'enfant un nom plus juste que Scamandrios. Cela est clair. Cherchons-en la raison. Ou plutôt, ne nous la donne-t-il pas lui-même le mieux du monde en disant « Car seul il défendait leur ville et ses vastes remparts. » Il semble en conséquence qu'il était juste d'appeler le fils du sauveur Astyanax de ce qui était sauvé par son père, ainsi que l'a fait le poète. Évidemment. Qu'est-ce à dire? Moi-même, je n'entends pas encore bien cela, et toi, tu l'entends? Non, bon Jupiter, ni moi non plus. Eh bien, mon cher, ne serait-ce pas Homère lui-même qui aurait donné ce nom d'Hector au héros troyen? Pourquoi cela? Parce que ce nom me paraît avoir beaucoup de rapport avec celui d'Astyanax, et que l'un et l'autre ont tout l'air de noms grecs. Anax et Hector signifient à peu près la même chose, et semblent tous deux des noms de rois. En effet, ce dont un homme est le chef, Anax, il en est aussi le maître, Hector, car il est clair qu'il le gouverne, qu'il le possède, qu'il l'a, écaille. Et penses-tu que j'ai tort, et m'abuserais-je, en croyant avoir trouvé quelques traces de la pensée d'Homère sur la propriété des noms? Par ma foi, il me semble que tu n'en es pas loin. Il est juste, en effet, ce me semble, d'appeler lion la progéniture du lion, et cheval celle du cheval. Bien entendu qu'il ne s'agit point des cas monstrueux, comme si, par exemple, il provenait d'un cheval autre chose qu'un cheval, mais du cours ordinaire de la reproduction des races. Qu'un cheval produise contre nature ce qui serait naturellement le produit d'un taureau, il faudra l'appeler un veau et non pas un poulain. De même pour la race humaine, le nom d'homme ne convient à la progéniture d'un homme qu'autant qu'elle est conforme à son espèce. De même aussi pour les plantes et pour toutes les autres choses. N'es-tu pas de cet avis? Oh, tout à fait. Fort bien, mais prends garde que je te donne le change. Il suivrait du même principe que celui qui naît d'un roi doit être appelé roi. Au reste, il n'importe pas que la même chose soit exprimée par tel assemblage de syllabes ou bien par tel autre. Qu'il y ait une lettre de plus ou une de moins, cela n'y a fait en rien encore, pourvu que dans le nom domine toujours l'essence de la chose qu'il doit exprimer. Que veux-tu dire par là? Rien de fort simple. Tu sais que les noms qui nous servent à désigner les lettres ne sont pas précisément ces lettres mêmes, excepté quatre, savoir l'epsilon, l'upsilon, l'omicron et l'oméga. Quant aux autres lettres, voyelles et consonnes, tu sais que c'est en leur adjoignant d'autres lettres que nous leur donnons des noms. Mais dès que nous faisons prédominer dans chacun de ces noms la lettre même qu'ils désignent, on peut l'appeler à juste titre le nom propre de cette lettre. Par exemple, bêta. Tu vois que l'adjonction de l'état du tau et de l'alpha n'a pas empêché que la nature de la lettre bêta ne fût clairement exprimée par le nom tout entier, suivant l'intention du législateur, tant il a bien su donner aux lettres les noms qui leur conviennent. Ce que tu dis là me semble vrai. N'en est-il pas de même pour le roi? D'un roi, il proviendra un roi, d'un homme bon, un homme bon, d'un bel homme, un bel homme, et ainsi du reste. Chaque race se reproduira semblable à elle-même, sauf le cas de monstruosité. Il faut donc aussi employer constamment les mêmes noms, mais cela n'empêche pas de faire subir des variations aux syllabes, de manière que l'ignorant prendra pour différents des noms qui, au fond, sont identiques, comme des drogues diversifiées par quelques couleurs ou quelques odeurs nous sembleront différentes, tout en étant les mêmes, et paraîtront les mêmes aux médecins, qui ne considèrent dans les drogues que leurs vertus et ne se laissent pas troubler par les accessoires. Pareillement, l'homme qui a la science des noms en considère la vertu, sans se troubler de ce qu'une lettre a été ajoutée, transposée ou retranchée, ou même de ce que la vertu des noms se trouve exprimée par des lettres entièrement différentes. Par exemple, ces noms dont nous parlions tout à l'heure, Astyanax et Hector, n'ont entre elles aucune lettre commune, excepté le T. Il n'en signifie pas moins la même chose. Et qu'a de commun avec ces deux noms, quant aux lettres, celui d'Archépolis, le chef de ville? Il a pourtant le même sens. Il y a beaucoup d'autres noms encore qui signifient de même un roi, beaucoup qui signifient un général, comme Agis, chef, Polémarque, chef de guerre, Eupolème, bon guerrier. D'autres désignent un médecin, Jatroclès, médecin célèbre, et Assésembrote, guérisseur des hommes. Nous en trouverions de même une foule d'autres, très différents pour les lettres et pour les syllabes, et qui pourtant ont la même valeur. Est-ce ton avis ou non? C'est tout à fait mon avis. Les êtres qui sont nés selon les règles de la nature, semblables à leurs auteurs, ne doivent-ils pas recevoir le même nom? Oui. Mais s'il arrive une naissance contre nature et qu'il se produise un monstre, si d'un homme bon et pieux il naît un impie, ne sera-ce pas, comme dans notre précédent exemple, d'un veau produit par un cheval et qui ne doit pas porter le nom de celui qui l'engendre, mais de la race à laquelle il appartient lui-même? Sans doute. Et si un impie naît d'un homme pieux, ne vaut-il pas lui donner aussi le nom de son genre? Oui. Si donc on veut que les noms soient propres et convenables, on ne l'appellera ni Théophile, ami de Dieu, ni Mnésité, pensant à Dieu, mais d'un nom qui signifie tout le contraire. Bah, assurément, Socrate. Par exemple, Hermogène, le nom d'Oreste, me semble bien juste, soit par un effet du hasard, soit par le choix de quelques poètes, parce qu'il exprime le caractère farouche, sauvage et montagnard, to horepon, de ce personnage. Oui, cela est vrai. Le nom de son père semble également très naturel. Oui. En effet, Agamemnon a bien l'air d'un homme capable de supporter tous les travaux et toutes les fatigues pour mettre fin à ses projets à force de constance. La preuve de cette inébranlable énergie est dans le long séjour qu'il fit devant Troie. Le nom d'Agamemnon signifie qu'il était admirable. Agastos, par sa persévérance, elle me prenait. Le nom d'Atrée n'est peut-être pas moins juste. La part qu'il prit au meurtre de Chrysippe et sa conduite atroce envers Thieste, tout cela était nuisible et outrageant, atterra pour la vertu, arrêtait. La signification de ce nom est quelque peu détournée et enveloppée, de sorte qu'il ne révèle pas d'abord à tout le monde le caractère du personnage. Mais ceux qui sont versés dans l'intelligence des noms voient bien ce que veut dire attrait, car, soit dans le sens de Ataïres, inhumain, ou dans celui de Atrostos, audacieux, ou de Atheros, outrageant, de toute manière, le nom lui convient. Le nom de Pélops me paraît aussi très heureusement choisi, car il signifie qu'un homme qui ne porte pas ses regards au-delà de ce qui est près de lui mérite d'être ainsi appelé. Comment cela ? Par exemple, lorsqu'il fit périr Myrtille, il ne sut pas, à ce qu'on le raconte, étendre ses regards et sa prévoyance sur sa postérité à laquelle il préparait tant de malheurs, et ne vit que le moment actuel ou prochain, Pélas, lorsqu'il mit tout en œuvre pour devenir l'époux d'Hippodamie. Le nom de Tantale doit aussi nous paraître juste et naturel, si nous en croyons ce qu'on raconte de ce personnage. Quoi ? D'abord, pendant sa vie, il éprouva beaucoup de grands malheurs, dont le terme fut la ruine totale de sa patrie. Vient ensuite, après sa mort, le supplice du rocher suspendu, Talanteia, sur sa tête dans les enfers, et qui a une conformité singulière avec son nom. On dirait aussi que quelqu'un qui voulait l'appeler très infortuné, Talantatos, lui aurait donné le nom de Tantale pour déguiser un peu le mot. C'est ce que semble avoir fait le hasard de la tradition. Quant au nom de Zeus, Jupiter, qui dit-on fut son père, je le trouve parfaitement convenable. Mais c'est ce qui n'est pas facile à concevoir. Oh, véritablement, ce nom équivaut à tout un discours. Il a été divisé en deux parties, dont on emploie tantôt l'une, tantôt l'autre. Les uns l'appellent Zena, les autres Dia. Réunis, ces deux noms expriment la nature du dieu. Et telle est, comme nous l'avons dit, la fonction que les noms doivent remplir. En effet, la vraie cause de la vie, toute Zen, pour nous et pour tout ce qui existe, est le maître et le roi de toutes choses. Il est donc très juste d'appeler ce dieu celui par lequel, Oyon, il s'est donné à chacun de vivre Zen. Mais ce nom, qui est un, a été divisé en deux, ainsi que je l'ai dit. Maintenant, de dire que ce dieu est fils de Cronos, Saturne, il semble au premier abord que ce soit une impertinence. Mais il est naturel que Jupiter soit le fils d'une intelligence supérieure. Et en effet, le nom de Cronos est un composé de deux parties, dont la première, Kronos, signifie non pas le fils, mais bien ce qu'il y a de plus pur dans l'intelligence, Nos. Cronos, à son tour, est, dit-on, fils d'Uranos, le ciel. On a très bien appelé Uranie, Urania, Orosa Tano, la contemplation des choses d'en haut, d'où vient l'intelligence pure, s'il faut en croire les hommes qui s'occupent des choses célestes et qui trouvent que le ciel a été bien nommé Uranos. Si je me rappelais la généalogie des Iones et les noms qu'ils donnent aux divinités dont nous venons de parler, je ne me laisserais pas de démontrer la justesse de ces noms jusqu'à ce que j'eusse éprouvé ce que deviendrait cette sagesse qui vient de me tomber soudainement, je ne sais d'où, si elle s'arrêterait ou non. Ah, en effet, Socrate, il semble que tu te sois mis tout à coup à rendre des oracles comme les inspirés. Oh, je soupçonne que ce talent m'est venu de Typhon de Prospalte, car j'ai passé toute ma matinée auprès de lui à lui prêter l'oreille. Et ce n'était pas seulement mon oreille qui l'aura rempli de sa science divine. Sans doute il se sera emparé aussi de mon esprit. Eh bien, voici ce que je te propose. Profitons-en pour aujourd'hui et voyons ce qu'il nous reste à examiner sur la question des noms. Demain, mes amis, si vous le trouvez bon, nous procéderons à l'exorcisme et à la purification en nous adressant pour cette affaire à quelqu'un qui s'y entende, soit un prêtre, soit un sophiste. Pour ma part, Socrate, j'y consens volontiers. J'aurai beaucoup de plaisir à entendre ce qui reste à dire sur les noms. Soit, bah où veux-tu que nous commencions, puisque nous voilà engagés dans une sorte d'examen régulier pour éprouver si les noms peuvent rendre témoignage par eux-mêmes, qu'ils ne sont point tout à fait l'ouvrage du hasard et qu'ils ont une certaine propriété naturelle. Les noms des hommes et des demi-dieux pourraient nous induire en erreur, car un grand nombre sont purement héréditaires et souvent ne conviennent nullement à ceux qui les ont reçus, comme nous l'avons remarqué. Un grand nombre sont donnés par forme de vœux, tels que Eurtychides, fortuné, Sosie, sauvé, Théophile, chéri de Dieu, et beaucoup d'autres. Je pense donc que nous ferons bien d'abandonner ce genre de noms. Les noms véritablement propres se trouveront surtout, selon toute apparence, parmi ceux qui se rapportent aux choses éternelles et à la nature. Ceci a en effet dû être établi avec un soin particulier. Peut-être même plusieurs viennent-ils d'une puissance plus haute et plus divine que celle des hommes. Cela me paraît bien dit, Socrate. Alors, ne serait-il pas juste de commencer par les dieux et de considérer quelle peut être la raison de ce nom de dieu, Théoi, qu'on leur donne ? Peut-être bien. Voici ce que je soupçonne. Je crois que les anciens habitants de la Grèce ne reconnaissaient d'autres dieux, comme aujourd'hui une grande partie des barbares, que le soleil, la lune, la terre, les astres et le ciel. Et qu'observant leurs mouvements et leurs courses perpétuelles, ils les auront appelés dieux Théoi, d'après cette propriété de courir, Théin, et que ce nom s'étendit par la suite aux nouvelles divinités qu'ils reconnurent. Ce que je te dis là te semble-t-il probable? Mais très probable. Bon, et maintenant, de quoi nous occuperons-nous? Régulièrement, ce doit être des démons, des héros, et puis des hommes. Bon, des démons d'abord. Quel peut être le vrai sens de ce nom, Hermogène? Vois si ma conjecture te paraît juste. Parle. Ne sais-tu pas quels étaient ces démons, suivant Hésiode? Me rappelle pas. Et que selon lui, la première race des hommes a été la race d'or? Ah oui, pour cela je m'en souviens. Hésiode nous dit à ce sujet: or, depuis que la Parque a caché cette race d'hommes, ils sont appelés démons, habitants sacrés des régions souterraines, bienfaisants, tutélaires, gardiens des mortels. Oui, eh bien. D'abord, je ne pense pas qu'il veuille dire que cette race d'or fut véritablement formée d'or, mais plutôt qu'elle était bonne et vertueuse. Et la preuve que j'en donne, c'est que nous-mêmes, ils nous appellent race de fer. Tu as raison. Et ne crois-tu pas que si Hésiode voyait quelqu'un de bon parmi les hommes de nos jours, il le mettrait parmi la race d'or? Je le crois. Et les bons sont-ils autre chose que des sages? Ce sont des sages. Or, c'est là surtout, suivant moi, ce que sont les démons pour Hésiode. S'il les a ainsi appelés, c'est parce qu'ils étaient sages et intelligents, daimones. Oh, c'est un terme de notre ancienne langue grecque. Hésiode a donc bien raison, lui et beaucoup d'autres poètes, lorsqu'ils disent qu'à la mort, l'homme sage entre en possession d'une haute et noble destinée et devient démon. C'est la sagesse qu'exprime cette dénomination. Et moi, à mon tour, comme je tiens tout homme bon pour sage, Daemon, je dis que durant sa vie, comme après sa mort, il est au rang d'un démon, et que ce nom lui appartient d'un juste titre. Oh, je partage tout à fait ton sentiment, Socrate. Et maintenant, alors, qu'est-ce que c'est que le héros? Oh, cela n'est pas très difficile à trouver. Ce nom s'est peu éloigné de son origine, et il indique clairement la race de l'amour, Héros. Mais comment cela? Ben, ignores-tu que les héros sont demi-dieux? Eh bien, or, tous ont dû leur naissance à l'amour, ou d'un dieu pour une mortelle, ou d'un mortel pour une déesse. Tu m'entendras mieux si tu consultes à ce sujet l'ancienne langue attique. Tu reconnaîtras que pour former le nom des héros, on s'est peu éloigné de celui de l'amour, Héros, auquel ils doivent sa naissance. C'est sûrement là ce que ce nom signifie, à moins de dire que ces héros étaient des savants, de grands rhéteurs, des dialecticiens très habiles à interroger, Hérotan. Kareirein signifie parler. De cette manière, comme je te l'ai dit, ce que nous nommons héros se trouve être, en langage attique, des rhéteurs, d'habiles questionneurs. Et ainsi la race des rhéteurs et des sophistes devient pour nous la race héroïque. Mais il n'y a pas là de difficulté, il y en a bien plus à trouver la raison qui nous a fait appeler hommes anthropoi. Pourrais-tu la dire? Comment le pourrais-je, mon cher Socrate? Et quand même je le pourrais, je me garderais bien de l'essayer, comptant bien plus sur toi que sur moi dans cette recherche. À ce qu'il paraît, tu as foi aux inspirations de Typhon. Certainement, mais c'est fort bien fait. Car il me semble que j'ai en tête une assez bonne réponse à la question que je t'adressais. Et je risque fort, si je n'y prends garde, de me trouver encore aujourd'hui plus habile que de raison. Fais attention à ce que je vais dire, mais d'abord, tu dois remarquer que souvent nous insérons des lettres, souvent nous en retranchons dans les mots dont nous voulons nous servir pour nommer quelque chose, et que nous changeons la place des accents. Par exemple, Diphilos, chéri de Jupiter, dont nous faisons le nom de Diphilos. Pour convertir en un nom toute la proposition, nous retranchons le second « i » et, d'accentuer qu'elle était, nous rendons grave la syllabe du milieu. Et il est au contraire d'autres noms où nous ajoutons des lettres et où nous plaçons l'accent sur les syllabes qui étaient graves auparavant. Cela est vrai. Or, c'est à mon avis une modification semblable qu'a éprouvé le nom d'homme « anthropos ». D'une proposition, on a fait un nom en retranchant un « alpha » et en rendant grave la terminaison. Mais que veux-tu dire? Me la voici. Selon d'Anthropos, signifie que, tandis que les autres animaux ne savent ni observer, ni étudier, ni contempler ce qu'ils voient, l'homme a cet avantage que tout en voyant, opopé, il observe et contemple anatrei, ce qu'il voit. C'est donc avec raison qu'on a tiré le nom d'homme de cette faculté qui lui appartient exclusivement entre tous les animaux, de savoir contempler ce qu'il voit. Anatrona opopte. Socrate, veux-tu que je t'interroge sur les noms que j'aimerais à connaître? Très volontiers. Aussi bien je pense que ce sera la suite de ce que tu viens de dire. Nous disons l'âme psyché et le corps soma de l'homme.
Oui, certainement.
Mais tâchons donc d'éclaircir ces mots comme les précédents. Tu souhaites que nous examinions d'abord la propriété du mot âme, ensuite celle du mot corps?
Oui.
Au premier coup d'œil, voici, je crois, quelle pouvait être la pensée de ceux qui ont fait le nom d'âme psyché. Tant que l'âme habite avec le corps, elle est la cause de sa vie, le principe qui lui donne la faculté de respirer et qui le rafraîchit, anapsukon. Et dès que le principe rafraîchissant l'abandonne, le corps se détruit et meurt. C'est de là ce qui me semble qu'est venu le nom de psyché. Ah, mais non, attends, je te prie. Je crois entrevoir une explication qui serait mieux accueillie chez Eutyphron. Car il se pourrait bien qu'on y dédaignât celle que je viens de donner comme un peu grossière. Vois donc si toi-même tu trouveras celle-ci préférable. Parle. À ton avis, qu'est-ce qui conduit et voiture notre corps pour le faire vivre et marcher? N'est-ce pas l'âme? Oui. Et ne crois-tu pas, avec Anaxagoras, qu'il existe une intelligence et une âme qui ordonne et maintient toutes choses? Je le crois. C'était donc fort bien fait de donner à cette force qui voiture et maintient la nature, fussi nokei kayekei, le nom de fupseke, dont on a pu faire pour plus d'élégance psyché. Oh, fort bien, je trouve cette explication plus savante que l'autre. Il est vrai, et pourtant ce mot paraît fort bizarre, prononcé comme il a été formé. Eh bien, et que dirions-nous du mot qui doit suivre? Du mot « corps »,« soma ». Oui. Bon peu qu'on touche à sa forme actuelle, je vois à ce mot plus d'une origine. Quelques-uns appellent le corps le tombeau, sema, de l'âme où elle serait présentement ensevelie. En outre, c'est par le corps que l'âme signifie tout ce qu'elle veut signifier. Et à ce titre, le nom de sema, qui veut aussi dire signe, est encore parfaitement convenable. Mais je crois que les disciples d'Orphée considèrent le nom de soma comme relatif à la peine que l'âme subit durant son séjour dans le corps en expiation de ses fautes. Ainsi, cette enceinte corporelle serait comme la prison où elle est gardée, sotte zétaille. Le corps est donc comme son nom, le porte, sans qu'il soit besoin d'y changer aucune lettre, ce qui conserve, to soma, l'âme, jusqu'à ce qu'elle ait acquitté sa dette. Oh, tout cela me paraît satisfaisant, Socrate.